esclave n'est pas une personne. C'est un meuble.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Depuis quand les humains sont-ils réduits en esclavage? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Paulin Ismar. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode, la traite et l'esclavage dans le monde arabo-musulman. L'esclavage tel qu'il est pratiqué par les sociétés musulmanes à partir du 7e siècle existait déjà dans l'Arabie pré-islamique. Dès les premiers siècles de notre ère, des navigateurs arabes se sont aventurés vers les côtes africaines pour y commettre des razzias ou acheter des esclaves. Mais après le début de l'islam au 7e siècle, et surtout avec les guerres de conquête menées par les armées musulmanes qui vont constituer de vastes empires, la traite orientale s'intensifie en quête de main-d'œuvre pour les travaux de force, l'agriculture, l'armée ou la prostitution. Les captures sont toujours violentes. Des chasseurs kidnappent adultes et enfants et les vendent à des commerçants spécialisés. La ville d'Assouan en Égypte est tristement célèbre pour son marché d'eunuques. La loi de l'islam interdisant d'assujettir des musulmans, les trafiquants vont chercher très loin des captifs. D'abord dans les pays slaves, au Caucase et en Asie, rapidement, avec la pression de la demande et de l'appât du gain, la traite se tourne vers l'Afrique.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Dis-moi, c'est toi le Nakuda du Boutre là-bas?
Oui, je suis Naruda et l'intendant de Cheikh Mohamed. Je suis son esclave.
Son esclave?
Oui, avant j'étais plongeur.
Les perles?
Oui, je pêchais les perles et puis mon maître est mort et son fils m'a vendu à cet arabe. Je fus acheté, pas cher sans doute, par un Naruda arabe venu de Makala.
Vers l'Afrique subsaharienne, dans l'actuel Tchad, Nubie, Éthiopie, Somalie et en Afrique orientale, vers la mer Rouge et l'océan Indien, sur les côtes de Tanzanie et du Mozambique. Ces esclaves, radiés ou achetés, sont acheminés vers le Proche-Orient, où ils seront vendus, mais aussi vers l'Espagne mauresque, la Sicile et même l'Inde ou la Chine. Que dit l'islam de l'esclavage? Comme le judaïsme et le christianisme avant lui, l'islam n'interdit pas l'esclavage. Dans le Coran, on trouve à la fois de quoi le condamner et de quoi le justifier. On y lit que les esclaves sont des humains, que l'on peut affranchir ces esclaves si l'on veut faire acte de piété, mais on y lit aussi que l'esclavage est reconnu par Dieu et fait partie de l'ordre naturel. Même ambiguïté concernant les femmes esclaves. La chasteté envers elles est encouragée, mais en même temps, il est précisé que les maîtres ont droit d'en faire un usage sexuel. Théoriquement, les juifs et les chrétiens qui sont soumis dans la loi musulmane au statut de dhimmi, protégés, ne doivent pas être réduits en esclavage, mais en pratique, la règle est largement transgressée. De même, pour les Noirs africains de confession musulmane, de plus en plus nombreux à partir des 10e et 11e siècles. Avec l'essor de la traite dite négrière, des musulmans commencent à se demander s'il est légal d'acheter et de vendre des esclaves convertis. Un scrupule balayé au 15e siècle par Alwan Charizi, juriste marocain. L'esclavage, dit-il, est une humiliation due à l'incroyance, qu'elle soit présente ou passée. Au siècle suivant, Ahmed Baba, un juriste noir qui a été razzié par des Marocains, déclare, lui, que la traite est, je cite, « une des calamités de notre époque ». Paulin Ismar, est-ce qu'on peut dire que la conquête arabo-musulmane au 7e et 8e siècle s'est appuyée sur l'esclavage ?
Bien sûr, mais comme l'expansion antérieure du monde gréco-romain s'est appuyée sur l'esclavage, mais aussi au sens où on faisait la guerre pour se procurer des esclaves sans lesquels ces sociétés ne pouvaient vivre, bah, il en va de même au moment de la déconquête arabe. C'est-à-dire qu'on assujettit des populations entières aussi pour produire des esclaves sans lesquels ces sociétés ont du mal à durer de génération en génération.
À quoi servent ces esclaves dans le monde arabo-musulman ?
Il y a un esclavage, alors disons domestique, à la fois féminin et masculin, qui est tout à fait important. On trouve aussi de très nombreux esclaves dans les mondes du travail urbain, hein, dans très nombreuses grandes cités du monde arabo-musulman médiéval. Jusqu'au moins à la fin du 9e, peut-être début du 10e siècle, on trouve aussi de très nombreux esclaves dans les grands territoires ou les grandes exploitations agricoles dans le monde abbasside. Hein, c'est toute l'histoire de la révolte des Anges.
Ah oui, c'est
à la fin du 9e siècle, dans le sud de l'Irak, autour de la région de Bassora, c'était constitué d'immenses exploitations agricoles avec une main-d'œuvre en grande partie composée d'esclaves. Pendant presque un peu plus d'une dizaine d'années, on observe une gigantesque révolte servile. Les historiens arabes parlent de centaines de milliers d'esclaves révoltés, qui est un chiffre qu'on discute. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il existait
beaucoup.
En tout cas d'immenses plantations.
Ils étaient là aussi pour assainir les zones marécageuses.
Tout à fait, dans le sud de l'Irak. Bon, et à côté de tout ça, il y a un phénomène qui est très particulier, qui est vraiment spécifique au monde arabo-musulman, qui est l'esclavage de type militaire. C'est-à-dire un esclavage public de type militaire. Et c'est le système mamelouk qui naît sous le califat abbasside et puis qui ensuite va se développer dans l'ensemble du monde arabo-musulman et qui a une très très longue durée, hein, jusqu'au 19e siècle, et qui est vraiment tout à fait singulier. C'est-à-dire l'idée d'aller prélever à l'extérieur du califat des individus en tant qu'esclaves non-musulmans, de les intégrer et de les élever, de les éduquer en tant qu'esclaves au service du califat, et puis finalement les affranchir, mais en faire la principale garde militaire au service des pouvoirs. C'est quelque chose vraiment de tout à fait singulier. Le système mamelouk, parallèlement à cette expansion et à ces conquêtes arabes, se met en place très vite à partir du 8e siècle à peu près, des réseaux de traite entre le monde arabe et l'Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, un historien comme Ralph Austin a montré qu'entre 750 en gros et 1300, il y avait eu un peu moins de 4 millions d'Africains issus du monde subsaharien qui avaient été envoyés, déportés en tant qu'esclaves dans les États musulmans de la Méditerranée et du Proche-Orient.
Jusqu'à quand va durer l'esclavage oriental ? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, on peut plus, il faut arrêter l'esclavage ?
Non, mais il y a des grandes discussions, par exemple, au cours du 19e siècle, à l'intérieur de l'Empire ottoman, concernant le statut même des esclaves à l'intérieur de l'Empire ottoman, des projets de réforme de l'esclavage et une pensée abolitionniste qui se développe dans le courant du 19e siècle à l'intérieur du monde arabo-musulman.
Oui, donc
Le monde arabo-musulman n'est pas coupé du discours abolitionniste ou de la pensée abolitionniste qui se développe par ailleurs, parallèlement, en Europe ou en Amérique, à partir de la fin du 18e, début du 19e.
Oui, on peut dire que, par exemple, pour l'Empire ottoman, l'esclavage s'arrêtera au début du 20e siècle, vers les années 1920.
Oui, tout à fait.
Merci Paulin Ismar de nous avoir rappelé cette longue histoire de l'esclavage, un sujet très vaste dont nous n'avons abordé bien sûr que quelques aspects. Nous consacrerons une autre émission à la traite transatlantique. Je rappelle un chiffre quand même, en 2022 encore, l'Organisation internationale du travail estimait que 50 millions de personnes dans le monde étaient victimes de l'esclavage moderne, qu'il s'agisse de travail ou de mariage forcé. Pour en savoir plus, je conseille vivement la lecture de votre livre, Paulin Ismar, le livre que vous avez dirigé, qui réunit de nombreux articles, « Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée », publié au Seuil. La bibliographie complète est à retrouver sur le site de l'émission. C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée de Marion Philippe et Frédéric Martin, à la technique Alix Barrois. Et merci à Julia Delperroux et à Ici Provence. Vous pouvez vous abonner au podcast du Fil de l'Histoire sur l'appli Radio France. J'attends vos commentaires comme toujours sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook. Rendez-vous lundi pour une nouvelle diffusion du Fil de l'Histoire. 1979, l'ayatollah Khomeini a-t-il volé la révolution iranienne, avec le géographe Bernard Ourcade.